Et si tu pouvais investir en bourse en partant de zéro, je vais tout te dévoiler au sein de cette formation gratuite que tu as accès, investisseur. J'espère qu'en tout cas, tu as la forme. Et oui, aujourd'hui, tu vas apprendre comment investir en bourse avec un petit capital en partant de zéro et avec le minimum de connaissances. On t'a menti en bourse parce que je sais que tu as déjà entendu certaines de ces phrases. Il faut être riche pour investir, il faut être un expert pour investir. La bourse, c'est comme le casino ou encore ça prend des heures, j'ai pas le temps. Il faut savoir que donc c'est totalement faux. Il faut être riche? Non, tu peux investir à partir de 10 euros. Il faut être un expert? Non, pas besoin de grandes connaissances, juste un minimum de bagages pour pouvoir te lancer sereinement. Ensuite, non, ce n'est pas le casino, à part si tu utilises les mauvaises stratégies. Mais ici, je vais te dévoiler les stratégies qui ont déjà été éprouvées depuis plus de 100 ans, notamment avec certaines stratégies. Bon, je ne vais pas toutes les révéler, ça va être au sein de cette vidéo-là. Et ça prend des heures? Non, seulement 5 minutes par mois. Mais également, voici ce que tu peux faire avec la bourse. En investissant, tu peux te construire ton premier patrimoine grandissant dans le temps, te protéger contre l'inflation, diversifier tes sources de revenus, prendre une retraite anticipée, assurer son avenir financier et celle de sa famille et se créer des compléments de revenus. Et tout ça grâce à la bourse, oui c'est possible et c'est ce que tu vas apprendre au sein de cette formation totalement gratuite. Si tu es déjà alléché par cette vidéo, n'hésite pas dès à présent à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, on enchaîne. Bien entendu, investisseur, aucun conseil en investissement, mais que de la pédagogie et de l'enseignement. Ensuite, à toi de tirer tes propres conclusions, à toi de te lancer et à toi de faire la part des choses. Je suis en aucun cas responsable de tes pertes. Il faut bien savoir faire cette distinction. Maintenant, passons au sommaire, c'est-à-dire tout ce que tu vas apprendre au sein de cette formation. Premièrement, je vais te dévoiler donc qui est Sequoia ? Qui suis-je ? Parce que tu te poses certainement des questions. Si tu veux passer cette partie, tu peux, de toute façon, ça sera timé au sein de cette vidéo YouTube, donc tu peux t'aventurer comme bon te semble, mais tu peux louper de très importantes informations, donc reste bien jusqu'à la fin. Un deuxième point, pourquoi investir maintenant, etc., etc. Pour finir, donc, sur le dernier point, comme tu peux voir, les 6 règles pour réussir en bourse. Mais voilà, on va donc s'aventurer sur plusieurs points, comment gagner de l'argent en bourse avec deux stratégies que je vais te présenter pour gagner de l'argent et comment ouvrir ton premier compte en bourse. Et bien sûr, on va aller sur une fiscalité simplifiée. On va donc se lancer sur ce premier point. Qui suis-je? Donc, qui se cache derrière Sequoia? Pour me présenter assez rapidement, pour pas prendre trop de temps, j'étais étudiant donc en bac pro en 2016. J'ai obtenu mon bac pro. Donc oui, je viens pas, tu vois, d'un milieu qui est assez assez aisé. Donc un bac pro, tu vois, c'était plutôt le diplôme par défaut. Ensuite, donc, j'ai réussi à intégrer l'université après l'obtention de mon bac pro et je me suis orienté vers une licence qu'on appelle éducation et motricité pour devenir enseignant de PS. J'ai obtenu le concours et le master ainsi que mon mémoire et donc je suis passé enseignant de PS au sein de l'éducation nationale pour ensuite fonder ma première école qui a été créée en 2018 où j'aide toujours mes étudiants, où j'aide, il y a plus de 6000 étudiants que j'ai formés depuis le début et j'ai fondé donc deux écoles avec notamment Sequoia qui a été fondée en 2020 et comme je peux te faire voir là tout à droite, eh bien avec les bonnes stratégies tu peux réaliser donc de très très bonnes performances où j'ai réalisé donc en 2021 une performance autour de 7%, 10% par an, enfin sur l'année. Et en 2022, où j'ai réalisé une performance autour de 20, 19, 10, 19%. Comment est-ce que j'ai fait ça? Je vais te révéler tout ça au sein de cette vidéo. Chapitre 2, pourquoi investir en bourse? Je ne vais pas te le refaire. Je t'ai déjà dit donc qu'il y avait plusieurs objectifs que tu peux designer selon toi et selon ce que tu veux. D'accord? Tu peux très bien préparer, acheter une résidence principale, te construire un premier capital, tu vois, un premier patrimoine grandissant pour mettre à l'abri tes enfants, pour qu'ils aient beaucoup plus de facilité sur les études supérieures. Bref, tu as compris. Cependant, il y a autre chose que j'aimerais te faire part, c'est qu'il y a de terribles ennemis, en fin de compte, que nous devons combattre à l'heure actuelle et c'est pour ça qu'il est important d'investir. Et moi, j'aime bien dire que ne pas investir est beaucoup plus dangereux que d'investir. Voici pourquoi. Les raisons pour lesquelles j'ai investi mon argent rapidement et pourquoi tu devrais toi aussi le faire, eh bien on fait face, si tu veux, à de nombreux ennemis qui se dressent devant notre argent, qui vient le voler, qui vient le tirer vers le bas. Et donc il y en a trois. Premièrement, l'inflation qu'on va voir. L'ennemi numéro 2, c'est la retraite. Et l'ennemi numéro 3, c'est le salaire. Alors, le salaire, je vais y venir. Premièrement, l'inflation. Pour te faire une traduction, l'inflation, c'est l'augmentation des prix des biens généraux, des services, etc., qui se traduit donc par une baisse de la valeur de la monnaie. Surtout à l'heure actuelle, en 2022-2023, on a eu une moyenne d'inflation autour de 5% en France. Et donc, comme tu peux le voir, si tu avais gardé... Alors, c'est une projection, d'accord ? C'est juste pour te donner un exemple. Mais en gros, 5%, voici ce que ça peut faire sur plus de 20 ans, d'accord ? Avec 50 000 euros de capital en 2043, donc passé 20 ans, tu peux te retrouver à 18 141 euros. Bien sûr, d'accord, tu n'as pas perdu cet argent, mais par contre, c'est bien ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu vas perdre de la valeur. C'est-à-dire que tu peux acheter beaucoup moins de choses avec ton argent demain. C'est pour ça que l'investissement pour contrer l'inflation est important. C'est ce que je te dis là, tu vois, nous gardons toujours la même somme sur notre compte bancaire, mais nous pouvons acheter de moins en moins de choses dû à la hausse du coût de la vie. Et on peut le voir, tu vois, avec ces petites images juste en bas, l'ensemble IPC, donc pour l'indice des prix à la consommation. Tu vois qu'en 2021, en août 2021, on était à 1,9, en juillet 2022, on était à 6,1 et en août 2022, on était monté à 5,8. Et donc, tu vois, ça joue sur l'alimentation. On est passé à 1,3 d'inflation en 2021 à 6,8. Et surtout, comme tu peux le voir, l'énergie, où on avait une inflation en août 2021 à 12,7, on est passé ensuite, en juillet 2022, à 28,5%. Donc bref, tu vois que l'inflation a bon dos et donc ça peut se faire ressentir en fin de compte sur ton portefeuille, sur ton salaire, et bien parce que tout va se tirer vers le bas. Et donc c'est ce que je montre juste ici par rapport à ton salaire, c'est que ton salaire ne va pas suivre ce qu'on appelle l'inflation. Et oui, c'est ce que tu vois juste ici, bravo, tu as été augmenté de 0,7% par an. Alors qu'est-ce que ça signifie ce graphique qui vient donc de franceinflation.com? Depuis 1997 jusqu'en 2021, le salaire net moyen dans le privé, j'aimerais préciser, est cependant passé de 2171 euros à 2524 euros, soit une augmentation de ton pouvoir d'achat de 0,7% par an. Et ça, c'est tout simplement meurtrier. Investir pour créer sa propre augmentation est tout à fait possible pour pouvoir augmenter ton revenu avec ce que j'appelle des revenus passifs, des revenus complémentaires qui tombent chaque mois sur ton compte en banque. Tu t'en doutes bien, avec cette hausse de pouvoir d'achat de 0,7% par an sur à peu près 20 ans, eh bien, par rapport à l'inflation moyenne en France qui est aux alentours de 2%, il faut savoir que donc ton salaire se désagrège de plus en plus, et c'est pour ça qu'on le remarque aussi de plus en plus en France, c'est que les gens sont de plus en plus impactés par les coûts de la vie, par l'inflation. Ils peuvent acheter de moins en moins de choses, et c'est pour ça qu'on a eu des débordements, notamment avec les gilets jaunes, etc., etc. Et il y a autre chose qui se rajoute à ça, c'est la retraite. Et oui, la retraite, c'est 800 euros par mois, voire 715 euros chez les femmes. Et donc, compter surtout pour une potentielle retraite, parce qu'il faut savoir que l'État n'est pas forcément avec nous pour la retraite, on est tous toujours reportés à l'avenir. Donc moi, je te pose cette question. Préfères-tu investir maintenant pour assurer ta retraite et créer des revenus complémentaires, ou compter sur l'État pour te verser des restes à vivre? Donc ici, le schéma que je t'ai fait voir, tu vois, c'est le montant moyen de la retraite versée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, le CNAV. C'est 800 euros en moyenne, mais en fait, si tu veux, pour les hommes, ça monte à 908 euros, et pour les femmes, c'est environ 715 euros. Ensuite, se rajoute à ça le complément de retraite, donc ça te fait une retraite environ à 1200 euros. Mais bref, voilà, c'est ce que tu auras en tout cas pour ta retraite. Tu l'as compris, investir donc devient nécessaire pour combattre ces trois ennemis et faire augmenter notre niveau de vie. Troisième point, comment fonctionne la bourse? Il faut savoir que la bourse, il faut le voir comme un marché, comme un grand marché, où on peut acheter et vendre ce qu'on appelle des actifs financiers. Ici, nous, ce qu'on va vendre, c'est surtout, enfin, ce qu'on va s'intéresser principalement, comme tu peux le voir, on peut acheter des matières premières, mais nous, ce qu'on va voir, c'est surtout ETF, actions, on peut acheter des obligations, etc. Mais nous, on va plus s'intéresser sur les deux stratégies que je vais te dévoiler, c'est avec les actions. Et donc, c'est un lieu, la bourse, pour les actionnaires. Et oui, parce que quand tu vas acheter une action, tu vas devenir un actionnaire. Il faut avoir une action, elle est cotée en bourse, et lorsque tu achètes une action, tu détiens donc une part de l'entreprise. C'est ce que je te montre là avec le prix d'action de Coca-Cola. Il y a plusieurs nombres d'actions en circulation dans le monde, d'accord, sur le marché boursier. Et donc, toi, tu vas en acheter plusieurs parties, d'accord. Par exemple, une action Coca-Cola, ça coûte 58 $. Donc ensuite, voilà, par rapport au nombre d'actions que tu vas acheter, tu en auras de plus en plus. Et tu pourras avoir plusieurs bénéfices par rapport à ça. Parce que oui, quand tu deviens actionnaire, c'est pas pour faire beau. Tu as des avantages, mais les avantages, nous les verrons tout à l'heure. Qu'est-ce que la bourse ? Je t'ai parlé, tu vois, d'un marché. Mais sauf que certains marchés, il y a des places boursières à travers le monde. Les actions donc peuvent être cotées et vendues, achetées et vendues au New York Stock Exchange, sur l'Euronext ou sur le London Stock Exchange. Donc tu l'as compris, ils sont situés donc aux quatre coins du globe. New York, bah, tu t'en doutes bien, c'est sur Wall Street. London, c'est situé plus à Londres. Et Euronext, il y a plusieurs salles de marché, notamment à Paris, à Amsterdam ou encore à Bruxelles. La bourse, c'est surtout aussi un lieu d'échange. En effet, c'est un marché où les gens achètent et vendent des actions. Il y a des vendeurs qui font baisser les prix et il y a aussi des acheteurs qui font monter le prix. Tu t'entends bien, lorsqu'il y a un krach boursier, lorsqu'il y a une bulle, d'accord, qui éclate, on va penser du krach boursier, je pense que tu as déjà entendu ce terme-là, et bah il y a tout le monde qui vend. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tout le monde panique, tout le monde vend ? Eh bien, le prix d'une action chute. C'est aussi ce qu'on appelle un lieu qui est volatile, c'est-à-dire ce sont des mouvements de prix à la hausse et à la baisse. Et donc, si l'entreprise génère plus d'argent, ça c'est aussi une potentialité, on peut voir notre prix grimper à l'avenir. Mais si l'entreprise fait des mauvais choix financiers, elle peut perdre de l'argent et donc elle peut voir son cours chuter. Et donc, tu vois que la volatilité, par contre, tout dépend de l'horizon de temps, d'accord, où tu regardes tes investissements. Sur 2 ans, tu vois, là, nous avons sur le cours d'Apple, ça fait des grosses vagues, comme tu peux le voir. Mais lorsque tu décompresses le temps sur 20 ans, on peut voir que la volatilité, donc le mouvement de prix, est beaucoup plus étalonné. Il y a toujours eu le même mouvement de prix, d'accord. Mais c'est juste que là, tu peux voir que sur le long terme, eh bien, on a une meilleure courbe par rapport à ça. Et donc, plus il y a de la volatilité sur les marchés, plus les prix bougent rapidement sur les marchés financiers, sur la bourse. Et moins il y a de volatilité, plus les prix sont stables et changent lentement. On passe au quatrième point, comment gagner de l'argent en bourse. Eh bien, premièrement, tu vas pouvoir réaliser ce qu'on appelle des plus-values. Les plus-values en bourse, ce sont les gains que tu réalises lorsque tu achètes ou lorsque tu vends une action pour un prix plus élevé pour celui pour lequel tu l'as acheté. Par exemple, voilà, tu achètes du Tesla à 1 000 $, tu le revends 2 000 $ un peu plus tard. C'est fictif, d'accord, les prix ne sont pas aussi hauts. C'est juste pour te montrer. Et bah, tu as gagné 1 000 $, tu as fait une performance qu'on appelle un rendement de 100%. Je t'ai montré donc 2 de mes positions, par exemple, là, que j'ai acheté en bourse. Il y a Chevron, donc c'est une entreprise plutôt donc pétrolière, une action pétrolière, où j'ai réalisé plus 106% de performance. Et tu as BlackRock avec une moins-value, tu vois, de 9,25%, qui peut te montrer, voilà, comment réaliser des moins-values. On peut aussi réaliser ce qu'on appelle des moins-values au sein de notre portefeuille. Je dis latente parce que latente, ce sont des moins-values qui ne sont pas enregistrées, c'est-à-dire que je n'ai pas vendu, mais j'ai investi mon argent là-dessus. Tant que je ne vends pas, je n'ai pas perdu. Tant que je ne vends pas aussi, je ne peux pas gagner. Deuxième façon de s'enrichir en bourse, c'est de recevoir des dividendes. L'entreprise dont tu es actionnaire te versera de l'argent sur ton compte titre ordinaire, CTO, ou ton plan d'épargne en action. Si je parle chinois, ne t'inquiète pas, on verra ces comptes. C'est ces comptes pour investir en bourse plus loin au sein de ta formation. Suite à l'achat d'une ou de plusieurs actions, l'entreprise te rémunère par la distribution de dividendes. Le dividende, c'est lorsqu'une entreprise génère des bénéfices au sein donc de l'entreprise, elle peut décider d'en verser à ses actionnaires. Mais attention, ce n'est pas obligatoire, d'accord ? Toutes les entreprises qui sont cotées en bourse ne sont pas obligé de verser des dividendes, d'accord ? Il faut bien faire, excuse-moi, je replace mon micro, il faut bien faire la part des choses. Par exemple, tu vois, là, je t'ai montré 2 actions que je possède. Tu as LVMH où j'ai reçu des actions, tu vois, qui sont à 12 € par action, et Coca-Cola qui est à 1,76 € par action. De toute façon, on va y revenir justement sur cette stratégie un peu plus loin, je ne vais pas trop dans les détails. Ensuite, il y a une troisième façon de gagner de l'argent, c'est ma stratégie que j'ai particulièrement, c'est de gagner 2 fois. C'est-à-dire que tu vas recevoir des dividendes chaque trimestre, semestriellement, annuellement ou même mensuellement. Tu as des actions à dividendes qui te versent mensuellement des dividendes. Et tu peux aussi gagner ce qu'on appelle en plus-value. Donc en fait, tu vas gagner en plus-value. Mais ce qui est intéressant avec les actions à dividendes, c'est qu'ils vont augmenter la croissance du dividende. Et ça, enfin, qu'ils vont augmenter leur montant du dividende. Du coup, ce qui fait que, eh ben, les entreprises, on peut eh bien, on peut s'enrichir, on peut dépasser notre salaire. Notre salaire, tu vois, qui augmente de 0,7% par an, comme on a vu. Il y a certaines actions à dividendes qui augmentent leurs dividendes de 15 à 20% par an. Là, il y a moyen qu'on s'enrichisse sur long terme si on sait combiner les deux. Et bien sûr, ensuite, il y a une autre stratégie qu'il faut respecter pour s'enrichir. Ce sont les intérêts composés qui consistent à réinvestir, donc ce que je te montre là, les dividendes et les plus-values pour faire grandir, tu vois, ton capital dans le temps. Pour te montrer, par exemple, un simple exemple, avec un rendement de 10,43% par an et un versement mensuel de 500 euros par mois. Alors, 10,43% par an, c'est l'ETF du S&P 500 qu'on verra dans la stratégie après les actions à dividendes. Tu vois, si tu patientes 40 ans, eh bien, tu peux aller jusqu'à 3,5 millions de gains en respectant donc une bonne stratégie. Et donc ça, souvent, les gens ne comprennent pas, mais avec les intérêts composés, les gains sont tout à fait exponentiels. Et donc là, tu te demandes, mais comment est-ce que ça fonctionne, en fait, ces intérêts composés? Parce que je suis sûr que ces chiffres-là commencent à t'emballer un petit peu. Eh bien, en fin de compte, il y a différentes étapes à respecter. Tout d'abord, tu déposes de l'argent, d'accord, comme je le montre ici, avec un taux, peu importe. La première année, donc, tu recevras 800 euros d'intérêt, donc avec des gains, tu auras 20 800 euros. Et ensuite, la deuxième année, vu que tu réinvestis tes 20 800 euros, eh bien, ces intérêts vont générer d'autres intérêts sur ces autres intérêts qui vont donc augmenter. Imagine une boule de neige, en fin de compte, que tu pousses de plus en plus vite et qui va grossir petit à petit. Et imagine en plus, si tu injectes une épargne mensuelle sur tes investissements, eh bien donc, tes gains augmente avec le temps. Maintenant, tu me dis, Sony, là, tu es en train de m'arnaquer, je suis sûr, parce que tu es en train de dire, tu es en train de me vendre un peu du rêve. La question que je dois te poser maintenant, c'est est-ce que c'est risqué? Alors, oui et non. Tout investissement, déjà d'une, si une personne te dit que c'est sans risque, ce n'est pas vrai. Tout investissement comporte des risques investisseurs, mais nous avons les moyens de les réduire drastiquement. Premièrement, les intérêts composés sont tout à fait vrais. Tu peux faire avec des calculatrices, il y en a plein sur Internet. Mais il y a aussi des données statistiques qui nous permettent donc eh bien, d'élaborer des stratégies qui ont déjà été éprouvées dans le temps, comme nous le montre par exemple la source de BlackRock et de Morningstar sur le S&P 500. C'est le S&P 500, on va y revenir, mais en gros, c'est le marché américain. De 1929 à 2019, il faut savoir que donc, le taux de pourcentage que tu peux voir en blanc de risque de perdre ton argent diminue avec le temps. Sur un mois, on a 38% de perdre de l'argent. Sur un an, on a 25%. Sur 5 ans, on passe à 11%. Sur 10 ans, 5. Et sur 15 ans, comme tu peux le voir, on est à 0,2%. Et j'aurais même bien rajouté une autre petite colonne. Passé 20 ans, notre chance de risque de perdre de l'argent sur le S&P 500 passe à 0,001%. Donc en gros, très très faible. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des stratégies à respecter et tu es au bon endroit, en tout cas, pour en apprendre davantage. Cinquième point, on va passer aux stratégies investisseurs, on va passer aux actions à dividendes. Est-ce le revenu par excellence? C'est ce qu'on va voir. Les actions à dividendes, déjà, qu'est-ce que c'est? Un dividende est une partie des bénéfices redistribués à ses actionnaires, comme je te l'ai mentionné. Une entreprise qui génère de l'argent, d'accord, a plusieurs possibilités pour l'utiliser. Okay, jusqu'à là, je pense que je n'étais pas perdu. Premièrement, on prend Apple. Apple, avec ses bénéfices, peut payer ses dettes, elle peut réinvestir dans sa croissance, elle peut acquérir d'autres entreprises, elle peut racheter ses actions. C'est une autre stratégie aussi qu'on voit dans l'écosystème Sequoia, mais je ne t'en dis pas plus. Et on peut payer, ils peuvent aussi payer des dividendes. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est cette notion de dividende. Est-ce que les dividendes sont performants dans le temps? Il faut savoir que sur une performance, tu vois, de 50 ans, les actions à dividendes ont largement surperformé le marché immobilier, où tu peux voir, tu vois, à plus 4353% pour l'immobilier, et les actions à dividendes ont réalisé plus 7517 euros. Et il y a plusieurs données qui le prouvent, tu vois, c'est la source que je t'ai mentionnée, c'est sur le revenu de 1968 à 2018. Et il y a une autre source, notamment sur le S&P 500 avec les dividendes réinvestis. Il faut savoir que la courbe en doré que tu as le plus haut avec 100 dollars de placé sur ton compte, il faut savoir que donc de 1973 à 2022, les dividendes, je veux dire les entreprises qui versent et qui augmentent leurs dividendes, ont tendance à surperformer que les actions qui n'en versent pas. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Ensuite, Autre chose, c'est comment recevoir des dividendes et comment ça fonctionne en fin de compte sur le processus d'achat. Donc en fait, tu as Coca-Cola qui est coté en bourse par exemple, et comme je te l'ai mentionné, tu as un nombre d'actions en circulation. Tu vas acheter par exemple 3 actions à 58$ et donc tu vas obtenir des dividendes avec un montant par action de 1,76$ par an. Et donc toi ou moi, d'accord, selon les actionnaires, on va recevoir des gains. Il faut savoir qu'aussi, il y a cette notion de rendement au niveau des actions à dividendes. C'est-à-dire qu'ils vont te verser un pourcentage par rapport à la somme que tu as investie. Le calcul du rendement est assez simple à calculer, d'accord, pour savoir combien est-ce que tu peux gagner, enfin combien est-ce que tu peux obtenir en dividendes. C'est tout simplement le montant du dividende qui est distribué divisé par le prix de l'action. Et pour te donner un ordre d'idée, si tu investis 1 000 € et bien tu peux gagner par année ce genre de somme. C'est-à-dire que tu peux gagner par exemple en investissant 1 000 € sur Air Liquide, tu peux gagner 19,8 € par an. Sur PepsiCo, tu peux gagner 26,5 €. 3M 41, AT&T 61,6 € et Nexity tu peux gagner 118 euros. Autre chose aussi qu'il faut faire très attention, investisseur, c'est que plus le rendement est haut sur le dividende, plus les risques augmentent. Il ne faut pas choisir une action uniquement pour son dividende. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle peut être en difficulté ensuite de le payer. C'est pour ça que c'est très important de choisir la bonne action pour investir en bourse. Et ça, c'est ce que j'apprends au sein de l'écosystème Sequoia. Et si tu veux en apprendre plus justement dans cet écosystème et pour voir d'autres épisodes entièrement gratuits, pour voir le second épisode justement sur comment générer des revenus passifs en bourse et comment moi j'ai fait, tu as juste à cliquer juste en bas de cette vidéo. Il y a le deuxième épisode qui est totalement offert. Tu as le lien en description. Ensuite, on va passer, c'est tu vas me demander mais quand les recevoir, c'est-à-dire quand est-ce que je vais les recevoir. Selon la politique de distribution du dividende de l'entreprise, la fréquence peut différer. Rappelle-toi, avec Coca-Cola, je t'ai dit c'était 1,76$ par an. Mais il faut savoir que c'est versé ce qu'on appelle en plusieurs coupons. C'est-à-dire, par exemple, en février, tu peux recevoir 0,44$. En mai, tu vas recevoir 0,44$. Et en gros, tu vois, trimestriellement, tu vas recevoir des dividendes. Et il faut savoir que donc tu peux te construire un calendrier pour recevoir des dividendes mensuels, donc des revenus complémentaires mensuels, si tu choisis bien tes entreprises qui versent à intervalles plus ou moins réguliers. Par exemple, tu vois, Coca-Cola. Alors ça, c'est pas les bonnes dates, d'accord ? C'est juste pour schématiser, ok ? Il y a différentes dates en fonction de différentes actions que tu vas prendre. D'accord ? Mais par contre, il y a des entreprises, par exemple, tu peux prendre, moi je sais que LVMH verse son dividende semestriellement, elle va verser son dividende en avril et en décembre. Et donc c'est là que c'est intéressant, tu vois, si tu investis sur plusieurs actions, tu peux te créer vraiment un calendrier. Et c'est ce que je montre, tu vois, juste ici, investisseur, c'est que tu peux recevoir des dividendes par mois, trimestriellement et par année et même semestriellement avec ce que je t'ai fait voir, tu vois, avec LVMH. Donc là, donc trimestre, tu as Microsoft, AT&T, AbbVie. Par mois, tu as différentes rates aussi qui peuvent te verser, tu vois, 12 fois par an, etc., etc. Il y a aussi autre chose qu'il faut bien distinguer quand tu vas recevoir un dividende, c'est au niveau de ces différentes dates. Premièrement, quand tu investis sur une action à dividende, l'entreprise va se rassembler et va voter, d'accord, pour décider de la somme à verser à leurs actionnaires. Donc bien sûr, il y a un bilan comptable, d'accord, avec chiffre d'affaires et bénéfices pour savoir combien est-ce qu'ils peuvent verser. Ensuite, tu as la date de détachement. Ce n'est pas la date de paiement. La date de détachement, c'est ce que détermine si tu as le droit à ton dividende. Achète l'action à J-1 et tu auras le droit à ton dividende. Si tu passes cette date, par exemple, là tu vois, j'ai mis le 22 mars. Si tu passes cette date, tu n'auras pas le droit à ton dividende. Et ensuite, par exemple, le premier avis, la date de paiement tombe. Félicitations, tu as reçu ton dividende. Et c'est là que ça devient intéressant. Maintenant, une question qui revient très souvent, c'est Sony, c'est que 3,14% de rendement par an, c'est pas rentable ce que tu me proposes. S'il y a une chose aussi, si tu as retenu ce que je t'ai dit auparavant, c'est que le rendement va augmenter dans le temps avec le montant du dividende qui augmente en parallèle. Comme je te l'ai dit, le rendement n'est jamais fixe. En effet, ici, accroche-toi bien, essaie de te concentrer. Je t'ai mis donc l'exemple là. Il faut savoir que le rendement va augmenter si le montant augmente et si ton prix d'achat reste le même. Ici, je t'ai fait part, tu vois, avec l'entreprise Home Depot. En 2018, imaginons que tu as donc Home Depot verse un montant du dividende, tu vois, de 1,16$. Tu es d'accord avec moi ? Et tu l'as acheté à 42$, d'accord, le 3 janvier 2012. Ce qui te donne un rendement, tu vois, de 2,76%.
5%.
Mais maintenant que nous sommes arrivés en 2022, tu as toujours le même prix d'achat, d'accord, parce que tu l'as acheté en 2012. Mais le montant du dividende a augmenté à 7,60$. Ce qui te donne, in fine, un rendement de 18,09% par an. Et oui, donc comme tu peux le voir, Home Depot a fait croître son dividende de manière exponentielle dans le temps. Et c'est ça qui est très intéressant, en fin de compte, avec les actions à dividende. C'est que le rendement, en fin de compte, ce qu'on appelle le yield on cost ou le rendement sur coût, augmente avec le temps, ce qui te permet donc de dépasser la performance annuelle annualisée du S&P 500 sur 100 ans qui se situe aux alentours de 10,43% par an. C'est là que les actions à dividendes deviennent intéressantes. Mais cependant, c'est pour ça que moi je ne choisis jamais une action à dividende juste pour son rendement. Je mesure surtout si elle est capable de la faire croître, de faire croître son rendement dans le temps, enfin de faire croître son montant du dividende. Et comment est-ce qu'elle peut le faire ? Eh bien tout simplement si l'entreprise a une bonne santé financière. Et bien sûr, pour évaluer une bonne santé financière de l'entreprise, il faut savoir analyser un petit peu avec quelques critères d'investissement. Et c'est ce que j'apprends au sein de l'écosystème Sequoia, notamment avec Dividende Evolution. Ensuite, l'intérêt d'avoir patienté 30 ans, c'est notamment le cas avec Warren Buffett et Coca-Cola. Une vision court terme de quelqu'un qui ne connaît pas les dividendes dirait simplement c'est que 3% par an. En effet, tu vois, avec un dividende annuel à 1,76$ et avec un prix de l'action actuel à 63,10$, eh bien ça donne 3% par an environ. Mais maintenant, avec une vision beaucoup plus long terme, il faut savoir que Warren Buffett a acheté ses actions Coca-Cola en 1988 à un prix aux alentours de 2,84$. C'est là où il a acheté la grande majorité de ses actions Coca-Cola. Coca-Cola a augmenté, a réalisé une croissance formidable de son montant du dividende chaque année en respectant, tu vois, étape par étape, comme tu peux le voir, lentement mais sûrement depuis plus de 60 ans, ce qui nous donne donc un rendement du dividende actuel de Warren Buffett de 62% par an. Et c'est là que ça devient forcément très intéressant. J'ai parlé justement de 60 ans de manière consécutive, c'est-à-dire que verser augmente par an, et il y a plusieurs entreprises comme ça, il n'y a pas que Coca-Cola. En effet, il y a ce qu'on appelle des super catégories d'actions à dividendes. Il y a les dividendes contenders, donc c'est des actions qui versent et augmentent leurs dividendes depuis plus de 10 ans, les actions aristocrates, depuis qui augmentent et versent depuis plus de 25 ans, de manière consécutive, sans arrêt, et dividend kings qui augmentent, d'accord, le versement du dividende et qui verse, eh bien, depuis plus de 50 ans, on a 3M, on a Coca-Cola, et tu vois, ça nous permet de montrer vraiment leur talent de, eh bien, donc, de, ils sont vraiment, ce sont des actions qui sont résilientes. Hop, 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 investisseur, n'oublie pas qu'en bas de cette description, tu as la suite de cette formation qui est entièrement gratuite. En effet, tu as deux autres épisodes au sein de l'écosystème Sequoia qui est disponible dans la description. Bien entendu, tu peux terminer cette vidéo et ensuite, quand tu voudras, tu pourras reprendre la suite. On reprend, c'est parti. Stratégie numéro 2, investisseur, les ETF. De 0 à un patrimoine de millionnaire, est-ce que c'est possible ? Mais la question que tu dois te poser à l'heure actuelle, c'est qu'est-ce qu'un ETF ? Un ETF pour Exchange Traded Funds est un fonds, alors c'est un fonds indiciel coté en bourse qui est proposé par plusieurs intermédiaires financiers comme des fonds d'investissement, des émetteurs, des banques traditionnelles, des banques en ligne, des émetteurs d'ETF. Son but, c'est de viser à reproduire l'évolution d'un indice boursier afin de proposer les mêmes performances, donc le même rendement, que ce dernier. Il va traquer, alors, c'est pour ça qu'on appelle le tracker, l'indice, d'accord, du, par exemple, du CAC 40, de l'indice français, par exemple, tu as aussi le S&P 500, l'indice américain, bref, ça, on va le voir tout à l'heure. Et donc, tu as plusieurs émetteurs qui peuvent proposer ça, comme par exemple, le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF. Ça, c'est l'ETF proposé par le BNP qui suit la performance de l'indice américain, comme je te l'expliquais, avec les 500 plus grandes capitalisations d'Amérique, avec, tu vois, donc sur 5 ans, les performances, tu vois, de l'ETF a été de plus 87,57%. Il peut y avoir donc une différence de performance qu'on appelle le tracking error, qui est dû à plusieurs choses, notamment à un ajustement au niveau des actions à l'intérieur. Bref, c'est pas, toi, c'est du totalement passif, c'est-à-dire que ce rendement, toi, tu n'as rien à faire, je vais t'expliquer, mais des fois, le gestionnaire peut, à l'intérieur de cet ETF, réaliser de plus grosses performances dû à un ajustement de plusieurs actions. Mais ça, voilà, on va pas trop rentrer dans les détails, ça s'appelle juste le tracking error si tu veux rentrer un peu plus dedans. Bien entendu, il y a des frais à l'intérieur des ETF comme produits financiers. Ces ETF peuvent atteindre des fois 0,15% par an de frais. C'est très très bas, mais ça justement, on va y venir un peu plus tard sur les frais au sein de cette formation. Si le concept d'indice boursier n'est pas clair, investisseur, je vais essayer de te résumer ça très simplement. Un indice boursier, ça représente tout simplement le taux de croissance des entreprises au sein du pays. Donc, c'est plusieurs actions qui sont cotées au sein du pays. Et justement, cet indice boursier va traquer cette performance de toutes ces actions. C'est un panier en fait, compté. C'est ce que je te dis. Tu vois que chaque pays possède un indice boursier qui lui est associé. Dans un indice boursier se trouvent les meilleures sociétés cotées en bourse du pays. Tu as le CAC 40 pour les 40 plus grandes entreprises cotées françaises. Tu as le S&P 500, l'indice boursier de référence américain. Il se compose des 500 plus grandes entreprises cotées en bourse sur le pays. Tu as le Nikkei au Japon, il y a les 225 entreprises japonaises. Et le FTSE en Grande-Bretagne, où il y a les 100 plus grandes entreprises. À l'intérieur de cet ETF, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Eh bien, comme je te l'ai dit, je t'ai parlé de panier d'actions. Eh bien, c'est ça. Quand tu achètes un ETF, tu achètes un lot d'actions, un panier. Imagine, tu vois, quand tu achètes un paquet de bonbons, eh ben, tu as un panier de dragibus, tu as plusieurs couleurs de dragibus, eh ben, c'est exactement pareil ici. Et par contre, voilà, tu ne peux pas choisir quelle action tu veux à l'intérieur. Quand tu achètes un paquet, tu achètes le lot entier. Eh ben, dans ce panier, c'est exactement la même chose. Tu as donc les meilleures sociétés cotées du pays dans un seul et quand tu réalises un seul et même achat. Donc l'image, tu vois ci-dessus, représente les 40 plus grandes sociétés cotées françaises. Tu vois Air Liquide, tu as EDF, Legrand, AXA, BNP Paribas, Danone, L'Oréal, Pernod Ricard, LVMH et j'en passe. Et justement, on va y venir concernant la composition et du cœur de l'ETF. La pondération, parce que je te l'ai dit, tu n'as pas le choix. Quand tu achètes un ETF, tu achètes le paquet de bonbons en entier. La pondération des actions à l'intérieur d'un ETF est décroissante. C'est-à-dire que tu as des actions qui sont pondérées, tu vois, de manière plus ou moins forte à l'intérieur. C'est-à-dire que tu as plus, par exemple, de bonbons bleus à l'intérieur de ce paquet de dragibus que de bonbons rouges. Et bah, c'est un peu pas pareil. Les bleus, tu vois, c'est LVMH. Pourquoi est-ce que l'indice fait ça ? Et bah, parce que tout simplement, ce sont les meilleures entreprises cotées, d'accord, les plus performantes et celles qui rapportent le plus d'argent, qui sont au-dessus de l'indice. Donc, par exemple, tu vois, LVMH a un poids dans l'indice de 12,05%. Total énergie, tu vois, de 8,59%, ce qu'on appelle une pondération en termes de pourcentage. Et donc ça, tu vois, c'est l'ETF, donc on appelle le Lyxor CAC 40. Et ici, LVMH, comme je te l'ai dit, pèse énormément lourd. Pourquoi ? Parce que LVMH est le pilier, d'accord, de l'entreprise, le pilier du CAC 40. Parce qu'elle réalise de très bonnes performances, historiquement parlant. Petite pause, investisseur, juste pour te demander, si tu m'écoutes sur YouTube, de laisser deux gros pouces bleus et également à t'abonner. Et si tu m'écoutes à la fois sur Spotify ou sur Apple Podcast, n'hésite pas à laisser un avis 5 étoiles. Ça permettra d'aider au podcast à être mieux référencé et permettre à d'autres personnes aussi de se former gratuitement sur la bourse. Je compte sur toi. Allez, on reprend. Et ensuite, tu vois, c'est ce que je te dis, quand tu achètes un ETF, tu achètes un lot d'actions. Mais comme tu ne choisis pas, il y a un très gros avantage, c'est que tu vois, souvent les actions individuelles, si tu veux faire du stock picking, notamment quand tu veux faire des actions à dividendes, tu vas acheter donc une action, sauf que cette action peut être particulièrement chère. Ici, par exemple, LVMH, en septembre 2023, elle tourne aux alentours de 729 euros. Mais si tu achètes un ETF qui contient donc du coup LVMH, eh bien tu achètes l'ETF, tu vois, en septembre 2023 à 33,45 euros et tu as LVMH à l'intérieur. Néanmoins, tu es d'accord, tu n'auras pas les mêmes performances. Pourquoi ? Parce que si tu as suivi précédemment, eh ben, tu n'es pas pondéré de la même manière. Pareil avec Microsoft qui se situe aux alentours de 320 dollars en septembre 2023. Le prix peut varier, tu es d'accord avec moi. Et avec l'ETF du BNP Paribas Easy S&P 500, tu peux l'avoir à 20,13%. Bien entendu, il ne sera pas pondéré de la même manière que si tu achetais une action, une vraie action véritable en stock picking. Et tu t'en doutes bien, ce qui est intéressant avec les ETF, c'est que tu vas te diversifier en un seul achat, puisque tu n'es pas obligé d'acheter, t'imagines, acheter les 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse, une par une comme ça peut être très lourd. Ici, en un seul achat, tu te diversifies vraiment avec un paquet d'entreprises. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, tu as plusieurs ETF qui suivent donc plusieurs pays, comme le S&P 500, comme le Stoxx Europe 600 qui va suivre donc les entreprises européennes. ASEAN, le CAC 40, tu as le MSCI Emerging Market qui va suivre les pays émergents. Et sinon, tu as aussi le fameux, le MSCI World qui reflète la performance d'un panier de près de 1700 valeurs mondiales, ce qui est très intéressant pour se diversifier. Alors, petite aparté, le MSCI World est quand même composé de 69%, c'est-à-dire qu'il est exposé, il est pondéré à 69% aux États-Unis. Donc en fait, le MSCI World, oui, est diversifié, mais il performe parce qu'il y a quand même les entreprises américaines à l'intérieur. Donc voilà, c'est du World, oui, mais tu es très exposé quand même sur le marché américain. Et ce qui est merveilleux avec ces ETF-là, c'est que tu fais fonctionner les intérêts composés. On en a déjà parlé, mais j'aimerais te le redire, parce qu'en fait, tu as des ETF qu'on appelle capitalisants, c'est-à-dire qui vont recevoir les dividendes à ta place et qui vont les réinjecter automatiquement, ce qui fait grossir cette boule de neige et qui fait fonctionner les intérêts composés. Et comme ça, tu vois, comme tu peux le voir, au bout de 33 ans, avec 300 euros par mois, il est possible de créer un patrimoine de plus de 1 million d'euros. Donc, comme tu peux le voir, 1 100 848 euros. Donc, tu vois, avec un rendement de 10,43% par an. Alors, pourquoi 10,43% par an ? Parce que c'est la moyenne annualisée du S&P 500 sur plus de 100 ans. Les données historiques nous ont montré que, oui, le S&P 500 est performant dans le temps. Et mais par contre, voilà, je tiens quand même à souligner, à point de vigilance, c'est que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, mais on peut s'y accrocher. Mais il faut rester quand même vigilant sur les performances passées, comme je l'ai dit. Et donc voilà, pour te montrer encore quelque chose de plus parlant, tu vois, avec les performances, tu vois, la force des intérêts composés, la courbe des gains en réinjectant les intérêts ici sont sans nul doute, sans commentaire. C'est-à-dire, tu vois, sans réinjecter les intérêts composés, tu vois, là, c'est des années de 1960 jusqu'à 2016. Et donc, sans les intérêts composés, on serait à $385 de gains, $385 000 de gains. Et en réinjectant les intérêts composés, on est à plus 2 120 940 $. Donc, c'est là, tu vois, que c'est très important de bien réinvestir ses dividendes pour pouvoir, voilà, croître dans le temps et faire fonctionner les intérêts composés. C'est là que ça explose et que ça décuple tes gains. Mais par contre, je t'en doute bien, pour faire fonctionner les intérêts composés, il y a une composante qui est très importante, c'est la patience. Ici, tu peux paniquer, tu vois. Si tu commences à investir, tu vois, sur l'ETF du S&P 500, et bah tu dis oui, ok, sur 6 mois, bah en fin de compte, c'est nul, j'ai perdu 4,63%. Enfin, j'ai fait une moins-value. Mais par contre, sur le long terme, tu vois, là, sur une période de 10 ans, eh bien, tu aurais fait x4 sur ton capital avec plus 288,70% sur le S&P 500. Alors, rappelle-toi, investisseur, je t'avais parlé de quelque chose concernant les ETF capitalisants. Il y a aussi un autre type d'ETF qui s'appelle le distribuant. En effet, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est tout simplement pour définir la politique de distribution du dividende. Attends, là, tu vas me dire, Sony, tu m'as parlé il y a quelques instants d'une stratégie à dividende. Maintenant, tu me dis que les ETF versent aussi des dividendes. Eh bien oui. Pourquoi ? Parce que je te rappelle que les ETF, ce sont à la base des actions. Lorsqu'une entreprise génère des bénéfices, et elle peut donc, comme je te l'ai dit, distribuer des dividendes. Et dans un ETF, c'est exactement la même chose. Et justement, c'est ce qu'on va voir juste ici. En fait, tu as deux types d'ETF. Premièrement, tu as l'ETF qu'on appelle capitalisant. Ce sont donc les dividendes reçus dans l'ETF sont reversés à l'intérieur du fonds. Donc en fait, c'est le gestionnaire du fonds qui va s'occuper de les réinjecter à l'intérieur. Donc l'émetteur, c'est qui ? Comme je t'ai dit, tu as Amundi, tu as iShares, donc c'est BlackRock, tu as alors Lyxor, c'est fait racheter par Amundi, tu as Xtracker, tu as Vanguard, bref, tu as plusieurs comme ça émetteurs qui vont se charger. Comme aussi, tu sais, rappelle-toi ce que je t'ai dit, le BNP Paribas S&P 500 que tu peux mettre sur un PEA. Et bien en fin de compte, l'émetteur va se charger de réinvestir les dividendes dans ses actifs. Et ce qui est bien par rapport à ça, on va y venir aussi par rapport à la fiscalité, mais sur le capitalisant, tu échappes totalement à l'imposition à 30% de flat tax ou sur le barème progressif. Bref, les impôts, t'inquiète pas, on y reviendra. Mais de toute façon, tu pourras croiser avec justement cette donnée. Donc en bref, le capitalisant, c'est très bien pour échapper sur l'imposition sur le dividende parce que ce n'est pas toi qui reçois le dividende, mais bien l'émetteur. Donc, tu t'en doutes bien. Ici, le profil d'investisseur, c'est pour ceux qui veulent faire grossir un patrimoine sur le long terme et pour aussi avoir, pourquoi pas, un gros capital ensuite pour se servir comme on veut à la retraite. Donc, il y a ça aussi qui peut être intéressant. Mais par contre, tu ne reçois pas de dividendes. Donc, il n'y a pas de revenus passifs. Et néanmoins, si tu veux construire des revenus complémentaires avec les ETF, tu peux aussi très bien grâce aux ETF distribuants. Ici, les dividendes obtenus au sein de l'ETF seront reversés sur ton compte, donc ton compte titre ordinaire ou ton PEA. Ici, tu décides d'allouer tes dividendes où tu le souhaites, c'est-à-dire que tu reçois tes dividendes, tu peux les réinjecter où tu veux, vers d'autres actions, vers d'autres types d'actifs comme les SCP ou le crowdfunding, ça c'est toi qui vois. Et ici, le profil d'investisseur, c'est pour ceux qui souhaitent être dans une phase de rentier, d'accord, que j'appelle comme ça, et qui veulent recevoir donc des revenus passifs, mais aussi de se construire, donc pourquoi pas, des revenus complémentaires à la retraite sans forcément savoir quand vendre. Parce que aussi, ça, le capitalisant, c'est un problème, c'est-à-dire que si tu vends donc une partie de ton ETF au pire moment, c'est-à-dire quand le S&P 500 a baissé de plus de 10%, je ne sais pas combien, tu décides de revendre à ce moment-là, et bien en fin de compte, tu n'auras pas la somme que tu souhaites pour ta retraite. Contrairement au distribuant, où tu reçois une somme, donc si tu reçois bien sûr, si tout se passe bien au sein de l'ETF, tu vas recevoir donc des dividendes de manière régulière et bien étalonnée dans le temps. Donc voilà, ça c'est bien les choses à différencier sur ces deux types d'ETF. Il faut savoir que ces deux types d'ETF, bien sûr, n'ont pas le même objectif. Je pense que tu as compris, on peut passer à la suite. Passons un peu dans le vif du sujet. Où est-ce que je peux ouvrir mon compte en bourse? Il faut savoir que tu as deux comptes possibles. Alors en tout cas, moi, ce sont les comptes que j'utilise. Tu en as plusieurs autres comme l'assurance vie, mais que je n'utilise pas personnellement. Pour investir en bourse, tu dois passer généralement par ces deux enveloppes. En tout cas, c'est les plus optimisés en termes de frais. Les frais, on va y venir. Tu as le CTO pour le compte titre ordinaire et tu as le PEA pour le plan d'épargne en action. Je vais te les expliquer un par un. Pour le CTO, le compte titre ordinaire, il est ouvert à tous parce que tu vas voir que contrairement au PEA, le PEA a une petite spécificité. En termes de limite de versement, donc de plafond de versement, tu n'es pas limité, tu peux verser autant que tu veux. Tu as un large choix d'investissement, c'est-à-dire que tu peux investir sur n'importe quel ETF, tu as une plus grande gamme de choix comparé au PEA. Tu as également, tu peux investir sur les actions américaines en stock picking, donc individuellement. Tu peux investir sur les actions chinoises, sur les actions canadiennes. Bref, t'as compris. L'impôt, par contre, après, ce qui va pas, ça aussi, on verra un peu plus tard au sein de cette vidéo, l'imposition sur les plus-values, les dividendes. Je pense que c'est vraiment le point noir du CTO, mais on va y venir. Ensuite, bien entendu, tu as le PEA pour le plan d'épargne en action qui est réservé uniquement aux résidents fiscaux français. Le plafond de versement va jusqu'à 150 000 euros de plafond de versement, c'est-à-dire que tu peux dépasser ce plafond si tu as généré des plus-values à l'intérieur de ton portefeuille. Et si tu vends, si tu obtiens des dividendes, ça peut donc augmenter aussi. Donc tu vois, il y a différentes choses aussi à bien évaluer. Cependant, il faut savoir que le PEA est quand même limité, c'est-à-dire que tu peux uniquement investir sur des actions européennes, mais par contre avec certains ETF synthétiques, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, tu peux quand même t'exposer sur le S&P 500, c'est-à-dire que tu peux quand même investir depuis ton PEA sur le marché américain et c'est là que ça devient très très intéressant. Tu as des avantages fiscaux après 5 ans, mais ça nous allons le voir un peu plus tard au sein de cette formation. Ensuite, tu vas me dire, ok Sony, donc ce sont un CTO, un PEA, mais qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que c'est géré? Il faut savoir que ce sont des courtiers en ligne qui vont gérer ça. Alors, courtiers ou des banques traditionnelles, eh bien en fait, tout simplement, c'est tu as des places boursières, comme on a vu dans les diapos précédentes, bon, là je te l'ai remis, avec le New York Stock Exchange, donc le NYSE, tu as l'Euronext, le London Stock Exchange, et bref, toutes ces places boursières, d'accord, elles sont là-haut. Et en fin de compte, toi, actionnaire qui est tout en bas, tu vas donc passer ce qu'on appelle un ordre d'achat ou un ordre de vente si tu veux acheter une action ou si tu veux vendre ton action. Et le courtier est là donc pour placer, tout simplement, c'est un intermédiaire. Imagine justement, c'est lui qui va former le pont entre la place boursière et toi et c'est lui qui va gérer toutes les transactions. Et c'est pour ça donc bien sûr que certains courtiers prennent des frais parce que bien sûr, ils ont du travail derrière cela. Alors ensuite, justement, je te parle de frais et donc, pourquoi est-ce que c'est important de faire attention à ça? Il y a un rapport de l'AMF en 2018, donc tu peux le retrouver, hein, c'est un document sur internet, tu mets les frais liés à vos investissements financiers. Ils ont constaté, regarde un peu, que les banques, ils prennent, tu vois, avec un ordre de 5000 euros. Alors quand ça parle d'ordre, tu vois, ce sont tout simplement donc les frais de courtage, c'est-à-dire que quand tu vas passer un ordre, il y a des frais qui vont être pris tout simplement. Et pour un ordre de 5000, les banques prennent 25,8 euros. Contrairement à un ordre, tu vois, chez un courtier en ligne, ils prennent seulement 7,6 euros. Donc c'est quasiment divisé par 3 les frais. Et c'est là que ça devient quand même, c'est très très gros. Et ensuite, tu vois, c'est même beaucoup plus flagrant quand tu passes, tu vois, sur des ordres qui sont un peu plus élevés. Si tu passes un ordre de 10 000 euros, eh bien, les banques prennent 48, allez, on va en dire à 49 euros, et les coursiers en ligne prennent 15,6 euros. Donc, il y a une réelle différence entre les banques traditionnelles et les banques en ligne ou les courtiers en ligne. Et ça, justement, on va y venir. Et en plus de ça, c'est pour ça que les banques traditionnelles, il faut faire attention, il y a une commission en plus de tenue de compte et tu as des droits de garde annuels, ce qui fait ponctionner encore tes performances, donc c'est pas bon du tout. Et si tu me parles d'assurance vie, moi l'assurance vie j'aime pas trop parce qu'il y a encore des frais qui se cachent derrière. Par exemple, tu as, alors c'est plus rare, mais tu as des frais de retrait, donc qui sont prélevés lors des retraits partiels ou en termes du contrat. Tu as des frais d'arbitrage qui sont prélevés sur le montant des sommes transférées d'une unité de compte à un autre. Tu as les frais de gestion du contrat qui peuvent aussi s'appuyer, tu vois, qui vont parfois à 1% par an, sans compter, tu vois, tout ce qui s'y rajoute. Et tu as des frais de versement. Bref, tout ça, ça commence à faire beaucoup, surtout que comparé à certaines choses, à certains courtiers en ligne ou banques en ligne, c'est beaucoup plus optimisé. Tu vas me dire, Sony, c'est que 1% par an, c'est pas grand-chose, je perds pas grand-chose. Bah, voici ce que tu perds au bout de 30 ans. Il faut savoir que 1% par an de frais pris sur ta performance chaque année, voici ce que ça fait. Rappelle-toi ce qu'on avait vu, tu sais, avec les 1 million qu'on a généré. Non, c'est fictif, d'accord. Sur 30 ans d'investissement, voici ce que ça aurait fait. 30 ans, tu vois, sans les frais de 1%, tu aurais gagné 1 172 000 euros, d'accord. Mais par contre, en enlevant, en gommant, donc en prenant avec les frais de 1%, voici ce que tu aurais gagné sur 30 ans. 957 000 euros, soit une perte de moins 215 000 euros. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer les frais sur ta performance. Ça grignote énormément et seulement avec 1%. Donc, t'imagines avec 2% ou même plus 3% par an. C'est beaucoup plus que ça. Ça peut être 3 fois plus. Je te laisse faire les calculs. Bref, c'est énorme sur 30 ans. Il faut pas négliger ça sur les intérêts composés parce que ça te les freine relativement. Et donc, qu'est-ce que tu peux me proposer? Alors, qu'est-ce que moi je fais personnellement? C'est que sur mon CTO et sur mon PEA, voici donc les différents courtiers que j'ai analysés sur, donc avec l'écosystème Sequoia, avec les différents programmes de formation que je propose. Eh bien, sur le CTO, moi j'utilise Trading 212, Trade Republic, Scalable Capital ou encore Interactive Broker. Je les essaye, etc. Donc, c'est les plus bas, c'est les frais les plus compétitifs du marché. Et sur mon PEA, j'investis sur Boursorama. Alors, j'ai pas investi sur Boursorama, mais j'ai fait des analyses. Mes élèves qui sont à l'intérieur de mon programme investissent sur Boursorama et aussi sur Fortuneo. Et moi, j'utilise personnellement Bourse Direct parce qu'il y a des frais qui sont très compétitifs et c'est sur ça qu'il faut être vigilant. Il y a plusieurs choses, notamment les frais. Comme je te parlais, les frais de courtage, les frais d'échange. Tu as le spread aussi, tu as les frais FX. Alors, le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix réel sur la place boursière. Donc, ils prennent une petite commission, ce sont des frais cachés. Et les frais FX, donc c'est tout simplement les taux de change quand tu vas changer ton euro en dollars pour acheter des actions américaines. Et donc, les garanties, il faut bien aussi regarder ça. Est-ce que en cas de faillite, le courtier couvre bien tes dépôts? Et la régulation, est-ce que c'est bien régulé? Il faut savoir ce que, voilà, sur Scalable Capital, c'est garanti jusqu'à 100 000 euros et c'est régulé par la BaFin, le régulateur financier allemand, comme nous, on a l'AMF en France. Et si tu veux donc rejoindre Scalable Capital et Bourse Direct, tu as différents liens de parrainage juste en bas de cette vidéo, donc tu peux regarder, tu peux jeter un œil si tu as envie. Chapitre suivant. On va parler de fiscalité, mais de la fiscalité simplifiée. Je t'ai vraiment simplifié le plus simplement possible et c'est pas le moment le plus plaisant, je peux te l'avouer. Et donc, on va aller premièrement sur le compte-titre ordinaire. Il faut savoir que les deux comptes sont soumis à des impositions totalement différentes. Sur le CTO, tu vas être imposé majoritairement ce qu'on appelle à la flat tax. Tu peux aussi parler de barème progressif. Mais ça, il y a différentes stratégies, si tu veux, pour optimiser les impôts. Mais j'en parle beaucoup plus au sein du dividende d'évolution de mon programme en ligne. Mais là, tu vas être imposé à la flat tax donc sur tes plus-values réalisées, donc vendues, que tu vas vendre, et sur les dividendes que tu perçois. Et ça, par contre, c'est mauvais. Justement, c'est le point à savoir que j'aimerais te faire entendre. C'est que même si les dividendes et les plus-values vendues sont réinvestis à l'intérieur du compte-titre ordinaire, tu es quand même imposé. Et justement, c'est contrairement au PEA, c'est là où est sa force, on y reviendra. Et donc, tu me demandes la flat tax, c'est quoi de 30%? C'est tout simplement, tu as 12,8% d'impôt sur le revenu et tu as 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui donne 30% de PFU, donc ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique ou la flat tax. Et donc on va venir maintenant sur le PEA. Pourquoi est-ce que le PEA c'est intéressant ? Eh bien, sur un PEA, tant que l'argent ne sort pas de ton compte, tu n'es pas imposé. Plus-value vendue et sur les dividendes gagnés. Et c'est là que c'est la grande force du PEA, c'est sa résilience à l'impôt. Il y a d'autres avantages, mais on va y venir après. C'est-à-dire que tout ce que tu reçois à l'intérieur, tout ce que tu boursicotes à l'intérieur de ton PEA, elles échappent à l'inflation tant que cela ne sort pas. Alors bien entendu, il y a quand même des prélèvements à la source qui se font. Par exemple, si tu reçois des dividendes allemands d'une action allemande, va y avoir le prélèvement à la source du dividende de l'entreprise allemande. Mais par contre, si tu as des actions françaises, eh bien c'est directement exonéré au sein du PEA parce qu'il n'y a pas de prélèvement forfaitaire, parce que il n'y a pas de prélèvement à la source parce que c'est français. D'accord ? Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, d'avoir des actions françaises au sein de son PEA. Mais par contre, si tu veux retirer ton argent, il faudra être patient. Après 5 ans de détention du PEA, si tu as gardé ton argent bien au chaud sur ton compte, tu seras exonéré d'impôt sur le revenu. Je te laisse voir le petit graphique ici avec le PFU, tu vois les 30%. Tu auras juste le prélèvement social, mais par contre, l'imposition sur le revenu de 12,8% sera exonérée. Donc en fait, tu paieras seulement l'argent que tu sors à hauteur de 17,2%. Mais bien entendu, il faudra patienter 5 ans. Parce que si tu sors ton argent avant 5 ans, eh bien, tu seras dû à la flat tax de 30%. Et en plus de ça, ton PEA sera clôturé. Alors, clôturé, pas dans certains cas, il faut faire attention. Il y a certains cas, bon, je t'invite à aller regarder, mais il y a des cas exceptionnels. Mais il faut faire attention. Voilà, si dans la grande majorité, si tu retires avant 5 ans, ton PEA sera clôturé. Donc, il faut faire attention à ça. Pour te résumer... ça c'est un petit post que j'ai trouvé ça vachement joli sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si tu veux t'abonner à mon compte Instagram, tu as le lien juste en bas aussi dans la description. Alors tu es exonéré, tu vois, comme je te l'ai dit, donc ça c'est le bilan un petit peu. Tu seras exonéré des 12,8%, les plus-values vendues ne sont pas imposées si elles restent dans le PEA. Pareil avec les dividendes, tant qu'ils restent à l'intérieur dans le PEA. Et l'ouvert par contre, ça aussi c'est un petit point négatif, c'est que le PEA est uniquement réservé pour les résidents français. Et bien sûr, comme je te l'ai dit, il existe bien d'autres stratégies pour payer moins d'impôts en bourse et c'est ce qu'on apprend au sein de l'écosystème Sequoia. Bref, je t'en dis pas plus. De toute façon, si l'écosystème Sequoia t'intéresse, tu as un deuxième épisode de formation entièrement gratuite sur les secrets des plus grands investisseurs. Ils en ont beaucoup à te dire. Donc n'hésite pas à cliquer dans la description juste en dessous et tu pourras y accéder et découvrir l'écosystème. Pour faire un bilan global, tu vois, CTO vs PEA, qu'est-ce que je dois prendre ? Eh bien, tu as le choix, c'est-à-dire que tu peux... Le PEA, il faut savoir que c'est exonéré d'impôts, tu vois, après 5 ans. Le plafond, par contre, tu vois, enfin, on va aller une par une, excuse-moi. La fiscalité, tu vois, sur le CTO ensuite, c'est 30% de flat tax ou le barème progressif. Le plafond, c'est illimité sur un CTO, mais sur un PEA, c'est limité à 150 000 euros de versement sur un PEA classique. La liquidité, à tout moment, tu peux retirer quand tu veux sur ton CTO, sans clôture du compte, c'est ça qui est intéressant. Mais par contre, tu vois, le PEA, tu as un retrait avant 5 ans, il faut que tu attendes. Les valeurs, donc tu peux, il y a une grande diversité sur le CTO, beaucoup plus de choix sur ton CTO, actions, même les ETF, hein, tu as beaucoup plus de choix. Et le PEA, bien entendu, tu es limité, même en termes d'ETF, il y en a beaucoup moins, d'accord ? Et tu es limité à des actions européenne. Bien sûr, il y a des petites combines où tu peux mettre le S&P 500 au sein de ton PEA. Les conditions, c'est ouvert à tous sans condition pour le comptier ordinaire, mais par contre, c'est réservé aux résidents français uniquement pour le PEA. On arrive au dernier chapitre investisseurs et ça, ce sont les 6 règles à absolument, tu dois absolument les respecter si tu veux gagner en bourse et réduire tes chances de perdre de l'argent. Premièrement, je te l'ai déjà dit, la vision à long terme, plus tu compresses le temps, plus grandes seront tes chances de perdre de l'argent. Il faut penser donc différemment. Pense à décompresser le temps, prends ton temps et tu vois que sur le S&P 500, eh bien la bourse lui a rendu au centuple avec donc des risques de perte de l'argent au-delà de 15 ans de 0,2%. Règle numéro 2, il faudra penser à diversifier tes actions afin de ne jamais mettre tes œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'il faut diversifier en termes de zone géographique, c'est-à-dire que s'il y a un problème géographique, eh bien il faut que tu puisses quand même avoir une autre zone pour pouvoir réduire donc cette pression sur ton portefeuille, c'est important. Donc États-Unis, France, Canada, des zones Europe, des zones européennes, et même en termes de secteur d'activité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir uniquement des valeurs technologiques au sein de ton portefeuille. Il faut avoir un peu de santé, un peu d'immobilier, un peu de luxe, un peu de pétrolière. Bref, moi, ce que je fais, c'est que je ne m'expose pas à plus de 20% de mon portefeuille dans un secteur d'activité. À titre d'exemple, acheter uniquement des valeurs technologiques aurait été fatal pour ton portefeuille à l'heure actuelle en 2022. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de valeurs qui ont explosé, notamment Zoom, tu sais, après la période du Covid, il y a eu un gros boom. Zoom, tu sais, c'était l'entreprise de visioconférence. Tu as eu Robinhood, exactement pareil. Ils ont perdu plus de 80% de leur valeur. Donc c'est pour ça que c'est bien de diversifier et de faire très attention. Règle numéro 3, d'éviter le day trading. Le problème chez les investisseurs débutants est qu'ils souhaitent gagner de l'argent très rapidement. Le day trading consiste à acheter et vendre une même action sur la même journée. Et ça, donc, ce n'est pas du tout le même type d'investissement. Il faut bien que tu distingues les deux parce que c'est très important. En termes de statistiques, le broker en ligne eToro et également l'AMF qui a souligné ça, c'est que près de 80 à 90% des traders perdent la totalité de leur investissement. Et donc ça, c'est des chiffres qui sont inquiétants. Pour moi, il faut respecter vraiment une vision à long terme. Alors, si tu veux faire du trading, il faut bien que tu distingues les deux. Te faire plaisir, pourquoi pas, sur du trading, mais aussi avoir une poche d'investissement, c'est-à-dire faire les deux. C'est pas un conseil en investissement, mais c'est bien peut-être de balancer un petit peu les deux pour pas trop se faire peur. Et ça aussi, c'est ce que disait donc le fondateur, c'est le papa des ETF, John C. Bogle, c'est le fondateur de The Vanguard Group. C'est que la bourse est un casino sur le court terme et une machine à richesse sur le long terme. 4. Maîtriser ses émotions. Et oui, les émotions sont l'ennemi numéro 1 de l'investisseur en bourse. Il faut savoir les canaliser, mais surtout les comprendre. Et c'est ce que j'apprends au sein de l'écosystème avec le module Psychoya, où justement on apprend à réagir, on apprend à avoir un mental, un mindset d'investisseur. Parce que voilà, si je te pose cette question, un krach boursier survient, tu as investi 5000 euros et tu perds plus de 2000 euros en moins de 10 minutes. Comment est-ce que tu réagirais ? A, tu paniques, tu revends tout dans la seconde, la bourse n'est pas faite pour moi. Ou B, tu es formé et tu es serein et tu sais qu'il y a de belles opportunités à saisir. Ça, ensuite, c'est toi qui le décidera. Règle numéro 5, choisir des entreprises de qualité. Pour choisir des entreprises de qualité, il faut savoir analyser les entreprises et savoir les interpréter avec ce qu'on appelle des ratios financiers. Et oui, selon Warren Buffett, à long terme, le prix d'une action suit toujours la qualité de l'entreprise. Ces entreprises donc sont considérées comme des actions bon père de famille car elles ont su résister à de nombreux krachs boursiers, verser des dividendes depuis plus de 50 ans. Alors certaines, pas toutes, nous pouvons donc les considérer comme des actions bunker idéales pour se protéger. Donc tu as Apple, Coca-Cola, Procter & Gamble, Starbucks, je rajouterais même McDonald's, bref, toutes ces entreprises-là sont des entreprises que moi je considère de bons pères de famille, même si elles ne sont pas garanties à 100%. De toute façon, aucun placement n'est garanti à 100%. Il faut faire très attention à ça et il faut toujours croiser par rapport à ça des actions de qualité et il faut que tu aies des indicateurs, surtout pour apprendre à analyser. Et ça, bien sûr, je te l'apprends également au sein de l'écosystème. Ensuite, tu as règle numéro 6, c'est de créer une épargne de précaution. Et ça, c'est une règle, je pense, c'est la règle des règles. C'est avant d'investir, tu dois savoir mettre de l'argent de côté. Parce que retirer de l'argent de ses investissements pour partir en voyage dans un horizon de temps de 2 mois, ce n'est pas bon. Parce que tu seras beaucoup plus à même d'écouter tes émotions. Tu peux te dire, attends, j'ai besoin de cet argent parce qu'on a besoin de partir en vacances. Je vais retirer ça tout de suite parce que je vois qu'en plus, je perds de l'argent. Non, vraiment, la poche investissement, il faut voir que l'argent que tu as placé, c'est de l'argent qui est perdu. Pas qui est perdu, mais tu as compris, tu ne dois pas y toucher. Et donc, il faut bien comprendre cela. Et pour faire ça, pour créer une épargne de précaution, il faut que tu sois OK sur ton budget. OK sur la jauge de revenus, combien je gagne. OK sur la jauge de dépenses, combien est-ce que je dépense par mois. Et ensuite, comme je le marque juste ici, tu as une jauge d'épargne, c'est-à-dire savoir combien est-ce que tu peux épargner par mois. Et ça, je fais souvent le distinguo avec le permis d'investir. C'est une notion que j'essaye vraiment de transmettre à mes élèves. C'est-à-dire que si tu es capable de placer sur un livret A, donc sur un livret bancaire, qui est garanti par l'État, donc c'est une épargne de précaution en soi, et en plus qui te rapporte un petit peu de rendement, bon, qui ne bat pas l'inflation, mais qui est utile quand même. Si tu arrives à placer 1 à 2 mois de salaire en avance, eh ben c'est ton niveau 1 du permis d'investir. D'accord, 1 à 2 mois de salaire en avance. Le niveau 2, tu arrives à placer 3 à 4 mois de salaire en avance sur ton livret A ou n'importe quel livret bancaire. Et le niveau 3, là, on peut considérer que tu es un investisseur qui est sécurisé, qui sait ce qu'il fait, avec 5 à 6 mois de salaire en avance. Investisseur, j'espère que cet épisode t'a plu. C'est terminé. Cette formation se clôture. J'espère qu'en tout cas, qu'elle t'aura plu. J'espère que tu auras appris pas mal de notions. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un petit secret. Il faut savoir qu'en bas de cette vidéo, tu as un deuxième épisode. Tu as même plusieurs épisodes totalement gratuits et tu vas découvrir l'écosystème Sequoia juste ici avec des épisodes où tu vas apprendre les plus grands secrets des investisseurs et également comment moi, je suis passé de 0 à 200 000 euros de patrimoine grâce à la bourse en moins de 3 ans. Je te laisse cliquer en bas de cette description. Tu as un lien, c'est le premier lien de toute manière. Et également, si tu veux discuter avec moi, eh bien, je te donne rendez-vous sur mon compte Instagram qui est aussi disponible dans la description. Investisseur, prends soin de ton portefeuille, passe une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes et que la croissance, bien entendu, et le rendement soient avec toi.